C'est un combat qui sera de longue durée. C'est un combat pour lequel nos adversaires de tous ordres tentent de créer une certaine panique à notre sein. Nous avons dit, le Burkina Faso restera debout.
Roch Marc Christian Caboret est l'actuel président du Burkina Faso, littéralement le pays des hommes intègres. Ce petit pays, enclavé en Afrique de l'Ouest, a longtemps fait figure de havre de paix. Jusqu'en 2014, les quelques 20 millions d'habitants de l'ex-Haute-Volta semblaient épargnés par les affrontements qui se généralisaient chez leurs voisins, maliens ou nigériens.
J'ai entendu le message, je l'ai compris et pris la juste mesure des fortes aspirations au changement.
Mais depuis la chute du régime de Blaise Compaoré il y a 5 ans, la situation ne cesse de se dégrader dans ce pays qui est l'un des 10 moins développés au monde. L'État burkinabé n'a pas les moyens militaires de s'opposer à l'avancée des djihadistes venus du Nord et les attaques se multiplient. En août dernier, la mort de 24 soldats dans leur caserne a traumatisé la population alors que, quelques semaines plus tôt, la libération de 2 otages français avait coûté la vie à 2 membres des forces spéciales françaises. Ces attaques ont déjà fait plus de 600 morts et poussé un demi-million de Burkinabés à l'exil intérieur. L'absence de réaction efficace de l'État a favorisé la création de milices d'autodéfense.
Les autorités n'ont plus le contrôle dans les régions du Sahel, du Nord et d'une partie de l'Est du Burkina. Et donc la population même est en train de prendre ses responsabilités en s'organisant.
On leur attribue notamment le massacre d'Irgou au début de l'année. Des miliciens suspectaient ce village d'éleveurs peuls musulmans de cacher des djihadistes et en a massacré pratiquement toute la population. Burkina, extension du domaine du djihad, c'est un reportage de Claude Guibal avec une prise de son de Fabien Gosset.
Interception. Le magazine de reportage de la rédaction.
Présentez.
On est au petit matin sur la place de la Nation, bordée là sur le côté par le camp Guillaume, la grande caserne de Ouagadou.
Nous assistons à l'arrivée de son Excellence Monsieur Roch Marc Christian Caboret, président du Faso, chef suprême des forces armées nationales.
Tout prêt pour la revue.
C'est la journée des forces armées, les FDS, les forces de défense et de sécurité. Uniforme bleu, treillissable, visage luisant, sculpté par le soleil.
Mesdames et messieurs, la commémoration du 59e anniversaire de notre armée nationale nous offre une belle occasion de communion entre les différentes unités qui composent l'armée nationale. Malheureusement, cet anniversaire tombe encore cette année, dans un moment où notre pays continue de subir l'épreuve de la guerre contre le terrorisme. Aussi, nous ne pouvons que dédier cette célébration à la mémoire de nos valeureux soldats qui sont tombés sur le champ d'honneur en défendant la patrie.
Maréchal des logis-chefs Savoué Honoré, Gendarmerie nationale.
24 juin.
Des soldats 2019. Tombés par dizaines, comme en août 2019 à Koudougou, où 24 militaires ont été massacrés par les djihadistes, brûlés vifs dans leur caserne.
Maréchal des logis d'Absoba Issaka.
À chaque attaque, des armes, des uniformes volés, des soldats traumatisés par cet ennemi invisible. Et puis il y a aussi les zones d'ombre, ces accusations d'exaction des forces armées, ces témoignages d'arrestations arbitraires, parfois d'exécutions extrajudiciaires.
Armée des terres. Omega FM, Radio Citoyenne, 7 jours sur 7.
Voilà, madame et monsieur, c'était donc le reportage de ce grand rassemblement pour l'unité nationale de soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité.
Remonter le moral de l'armée, galvaniser le moral du pays. Le Burkina, le pays des hommes intègres, ne se reconnaît plus, comme ce chauffeur du taxi dans lequel nous nous engouffrons à la fin de la cérémonie.
Vous, monsieur, qui nous conduisez, vous nous disiez que votre frère est militaire. Ça ne doit pas être facile tout le temps de savoir que, comme ça, on a un parent qui est dans l'armée aujourd'hui.
De nos jours, avoir un frère militaire qui est angoissé, tu n'aimerais pas qu'il aille au front. Tu aimerais le savoir à Ouagadougou dans un camp. Parce que quand il est au front, même un ami qui est au front, tous les jours tu penses qu'il peut tomber. Donc c'est pas facile.
Et alors comment vous réagissez quand il y a des gens qui critiquent l'action des militaires en disant qu'ils ne se conduisent pas bien, par exemple, sur le terrain?
On ne peut pas critiquer les militaires parce qu'ils essaient de nous défendre. Maintenant, le problème qui se pose au Burkina, je me dis que peut-être il y a un problème au sein de l'armée. Parce que tous les jours, les djihadistes, ils ont une avance sur les militaires. Et dès qu'ils disent qu'on a attaqué, ils sont déjà prévenus, ils savent qu'ils viennent et puis ils nous attaquent. Il faudra même qu'on essaie de revoir au sein de notre armée, est-ce qu'il n'y a pas des failles?
Et quand il y a des massacres comme celui qu'il y a eu à Yirgou et dans d'autres endroits, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas l'armée.
À Yirgou, ce qui s'est passé, il y a eu une attaque du djihadiste. Et ils ont dit que les djihadistes sont allés dans la communauté Peul. Mais ils n'ont pas pu retrouver les djihadistes. Ils ont dit que les Peuls ont caché les djihadistes. Elles ont donné un ultimatum au peuple de rendre les djihadistes, soit on attaque le village. Ça, c'était le Kogolo qui a fait ce système. Beaucoup de gens pensent que le peuple, il fait partie des voleurs, il fait partie de tous ceux qui font les vols, les trucs de ce genre. Donc, selon eux, c'est les peuples qui ont cassé les djihadistes pour les protéger, en fait.
Et vous, ça vous a choqué?
Jusqu'à là, l'État n'a pas... On n'a pas fait de jugement, on n'a pas fait d'enquête, trouver que... La responsabilité revient à un tel. Il fallait qu'on trouve des gens, on les enferme pour apaiser les esprits de tout un chacun. Mais ça n'était pas fait. Et comment voulez-vous que ces gens qui ont perdu des frères, des soeurs ou des parents ne vont pas se venger sur le Burkina? Ils vont se venger parce que c'est un conflit ethnique. On favorise les Mossi en défaveur des Peuls.
Vous-même, vous êtes Peul?
Non, je ne suis pas Peul, ni Mossi.
Et pourtant, vous sentez qu'il y a une injustice?
Tout le monde sait au Burkina, c'est l'autodéfense Kogleogo qui a fait ce massacre.
Les Kogleogo, littéralement les gardiens de la brousse. Issus de l'ethnie majoritaire Mossi, c'est la plus puissante de ces milices d'autodéfense villageoise qui ont pris de l'ampleur dans le chaos qui s'est installé après la chute du président Blaise Compaoré en 2014, en se plaçant en supplétive des forces de sécurité dans les zones reculées. Nous partons dans un village, direction le nord. Sous un manguier, une quarantaine d'hommes, au visage fermé, assis en cercle. On est placé au milieu, scruté. Nos identités vérifiées, on nous intime l'ordre de rester silencieux jusqu'à ce que le chef nous autorise à parler.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est les Kogleogo?
Si nous avons mis en place les Kogleogo, c'est d'abord pour nous protéger contre les voleurs. Bien sûr, il y a la police et la gendarmerie, mais on est dans des villages isolés. Les voleurs pillent notre bétail et volent nos biens. La vie devient trop difficile pour nous. C'est pour ça qu'on s'est décidé à créer ce mouvement, dont l'action est connue par les autorités. C'est ça qu'on appelle les Kogleogo.
Et aujourd'hui, par exemple, alors que le Burkina Faso connaît une période d'insécurité, est-ce que eux, ils jouent un rôle dans la défense du Burkina Faso?
Oui, les Kogleogo jouent un rôle dans ce domaine. Si on reçoit une information sur la présence de djihadistes quelque part, on s'y rend immédiatement et on les combat, sans peur.
Et alors, qui sont ces ennemis du Burkina qui déstabilisent le pays ou qui cherchent à le déstabiliser?
On les appelle des djihadistes, mais on ne sait pas vraiment qui ils sont. Certains disent qu'il y a des Burkinabés parmi eux, d'autres que ce sont des étrangers. On ne sait pas exactement, mais pour nous, ce sont des ennemis.
Comment on les reconnaît, les djihadistes?
Celui qui vient tuer l'un des nôtres, on le considère comme un djihadiste. Parce qu'avant, on ne s'entretuait pas. Ces djihadistes veulent nous tuer et nous, on ne va pas les laisser faire sans réagir.
Et alors, quand il entend des critiques, par exemple, contre le travail des Kogleogo, comment il réagit, lui, à ces critiques-là?
Ce sont des accusations sans preuve, juste pour nous faire du tort. Ceux qui accusent les Kogleogo à tort sont ceux contre lesquels nous luttons, les voleurs et ce genre de personnes. Ceux-là, évidemment, ne peuvent pas dire du bien de nous. Sinon, le Kogleogo ne torture pas, ne maltraite pas et ne force pas les gens à faire des choses insensées. Tenez, regardez ce carnet. Vous voyez, on a écrit des numéros de châssis, les plaques d'immatriculation, des modèles de voitures recherchées, bref, des informations importantes fournies par les autorités pour qu'on les aide dans la lutte contre les djihadistes.
L'homme nous fait signe de le suivre. Derrière lui, il y a un hangar rempli d'objets récupérés au cours de raids punitifs.
Ah, ça, c'est des motos volées. On a récupéré ça des mains des bandits.
Ah, il y en a beaucoup là, hein, quand même.
Et puis, il y a cet arbre là-bas, avec ses énormes racines, où sont enchaînés sous un soleil de plomb une dizaine d'hommes aux membres tuméfiés.
Voilà les bandits là.
Ah oui, vous les avez enchaînés.
Voilà, déjà enchaînés.
C'est des gens qui ont fait quoi ?
Bon, d'autres ont volé des plaques solaires, d'autres c'est des motos, d'autres c'est des portables. Toutes sortes de choses à son voleur.
L'Afrique n'en peut plus, toujours la même rengaine, la même politique, les mêmes dictateurs. Et l'Afrique paye le prix, d'ici j'entends les cris de ces civils qu'on mitraille. Oui, on se déchire, oui, on s'extermine, que Dieu bénisse l'Afrique. Car le diable habite ses fils.
Allô, monsieur Sardo. Oui, on est au niveau de
l'homme que nous partons retrouver dans sa maison en banlieue de Ouagadougou s'appelle Mahamoudou Savadogo.
J'ai dépassé en fait le maquis, je suis au niveau de l'antenne.
Cet ancien gendarme devenu consultant est un homme de terrain, un des meilleurs connaisseurs de la situation sécuritaire au Sahel. Ses milices devenues un état dans l'état, ses critiques de l'armée, tout cela l'inquiète.
Les autorités n'ont plus le contrôle de la situation dans les régions du Sahel, du Nord et d'une partie de l'Est du Burkina. Et donc la population même est en train de prendre ses responsabilités en s'organisant.
Quel est le risque, justement, que cette sécurité elle soit prise en main par les citoyens ?
Si les populations en arrivent à remplacer l'État dans son rôle régalien qui est d'assurer la sécurité des populations, je pense que le risque, c'est qu'on remette en cause carrément l'existence même de l'État. Et ça, c'est, nous allons tomber dans une anarchie profonde qui risque de plonger aussi le Burkina dans des violences assez indescriptibles.
Aujourd'hui, dans les milices dont vous parlez, la plus importante, ce sont les Kogleogo.
Les Kogleogo, c'est une milice qui est née, si vous voulez, en même temps que le parti au pouvoir, c'est-à-dire le MPP. Et donc, ces groupes d'autodéfense-là ont, dans un premier temps, joué un rôle assez, on peut dire, assez louable, parce qu'ils ont réussi à diminuer un tant soit peu la criminalité qui prévalait dans certaines régions, comme la région de l'Est. Mais dans d'autres régions, ils ont tenté, dans un premier temps, de s'opposer à ces groupes terroristes, mais face à leurs moyens limités, ils ont jeté leur dévolu sur certaines populations qu'ils pensent être de connivence avec ces groupes terroristes.
Donc les milices Kogleogo sont accusées notamment à Yergou, qui est le premier gros massacre intercommunautaire qui est connu comme ça le Burkina Faso, d'une population Peul accusée de complicité avec le terrorisme.
Effectivement, nous sommes en train de basculer des violences terroristes, nous sommes en train de basculer dans des violences intercommunautaires qui est quand même l'une des violences les plus difficiles à maîtriser. C'est vraiment un chaos total si cela se propageait pour l'ensemble des régions. C'est quand même une communauté qui a été visée sans qu'il y ait une réaction forte de l'État et sans que jusqu'à présent aussi il y ait un début de justice à l'égard de cette population et même à l'encontre de ces groupes d'autodéfense. Pour moi, c'est le silence de l'État qui a conduit même à l'exacerbation de la violence actuelle dans le Centre-Nord.
On voit bien que ces groupes terroristes ont une vraie stratégie.
Absolument. Ces groupes terroristes s'adaptent au fur et à mesure. Ils sont même en train de communautariser le terrorisme, c'est-à-dire ils se fondent dans la communauté et ils essaient de faire passer leurs messages radicaux sans pour autant être visibles. Et donc, ce n'est pas des groupes qui veulent gouverner parce que gouverner, c'est encore plus difficile. Et même que ça peut se retourner contre eux. Et eux, contrairement aux États, apprennent de leurs erreurs. Ils ont vu les erreurs qu'ils ont commises au Mali. On voit clairement qu'ils ne comptent pas les répéter. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent la pression de façon indirecte sur le pouvoir central en vidant les zones rurales
Et donc, les villes vont être de plus en plus insécurisées. Et la population va mettre la pression sur le pouvoir central qui risque de céder, qui risque d'éclater, faute de ne pas donner une réponse adaptée et adéquate. C'est une stratégie pour moi encore plus pernicieuse que même les attaques directes menées par ces groupes terroristes.
Et Thomas ?
Les déplacés, ils sont déjà près d'un demi-million. Plus de 2000 écoles ont fermé, laissant 300 000 enfants déscolarisés. Certains ont rejoint les camps gérés par les Nations Unies. D'autres, encore plus nombreux, sont accueillis par leurs familles, comme celle de ce vieil homme que nous retrouvons à quelques dizaines de kilomètres de Ouagadougou, dans un champ où des hommes, des femmes repiquent des oignons dans une chaleur moite, épuisante.
Ces déplacés, ce sont des personnes de votre famille qui vous ont demandé de l'aide ?
Non, moi, je dis, voyez la souffrance, ils ne m'ont pas demandé, je suis obligé.
Et c'est combien de personnes que vous aidez aujourd'hui ?
Entre 36, 37 personnes comme ça. Voilà.
Comment vous sinon faites ?
Ah ben, on va commencer à débrouiller comme il faut. On n'a plus qu'à se débrouiller.
Vous pouvez me raconter exactement qu'est-ce qui s'est passé dans votre village ? Vous viviez tranquillement, vous êtes cultivatrice avec votre famille. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Au début, quand ils sont arrivés dans l'école, et ils ont fait sortir les enseignants et les élèves. Il les a demandé, quand on les a dit de ne plus donner cours ici, est-ce qu'ils ont compris? Les anciens ont dit qu'ils n'ont pas eu de message pour ça. Et il y a un qui a dit de les tuer. Et il y a l'autre qui a dit de ne pas les tuer. Et celui qui a dit de ne pas les tuer a eu plus de force et on ne les a pas tués.
Les gens qui sont venus dans votre village, ils disaient qu'il ne faut plus aller à l'école?
Quand ils sont venus au début, c'était surtout pour ça. Mais après, quand ils sont revenus, quand ils ont commencé à tuer les gens, ils tuaient les hommes et ils partaient avec les jeunes. Et ils laissaient les femmes et les petits-enfants.
À votre avis, ils attaquent pourquoi ?
Au début, quand ils arrivaient, ils essayaient de rassembler les gens et puis essayer de leur dire qu'il faut laisser pousser la barbe et puis couper vos pantalons pour que ça soit court. Après ça, quand ils reviennent, ils trouvent un regroupement comme ça, ils ne cherchent pas à comprendre, ils tiraient sur le tas avec des fusils. Donc eux, ils n'ont jamais su ce qu'ils veulent exactement. Ils ne savent pas pourquoi ils tuent les gens, ils ne savent pas pourquoi il y a ça en fait.
Quand ils demandent de faire pousser la barbe, quand ils demandent de couper les pantalons, c'est pour les obliger à adopter les principes islamistes.
C'est pour qu'ils deviennent des musulmans. C'est pour qu'ils deviennent des musulmans.
C'est qui ces gens qui attaquent ?
Ceux qui nous attaquent, ils sont de la race Peul. Apparemment, ils viennent de la frontière entre le Burkina et le Mali.
Vous avez vécu des choses très difficiles. Comment vous allez psychologiquement ?
Elle, ses propres frères, du même père, même mère, ont été tués devant elle. Elle-même, elle les a vus de ses propres yeux.
Quand est-ce que ça s'est passé ?
À peine 21 jours aujourd'hui.
Vous arrivez à dormir, comment vous faites pour garder la confiance ?
C'est la croyance en Dieu qui leur permet de tenir. Sinon, souvent la nuit, tu fais des rêves sur ça. Et quand tu entends les coups de fusil, ça te rappelle beaucoup de choses. Et ça l'a traumatisée. Elle a toujours peur.
Je vous remercie et vous mettez dans la protection de Dieu. Que Dieu vous accompagne à d'où vous venez et que vous continuez à travailler comme vous le faites.
Merci.
Interception sur France Inter.
Au Burkina Faso, l'identification Peul djihadiste sert souvent de justification aux exactions commises par les milices d'autodéfense. Il faut dire que cette ethnie, présente dans toute l'Afrique de l'Ouest, cristallise contre elle bien des inimitiés. Les Peuls sont initialement des éleveurs, de tradition nomade, peu instruits et repliés sur une culture fermée, bref, des boucs émissaires tout trouvés. Certains parlent même de djihad Peul. On retrouve Claude Guibal en compagnie de Mahamoudou Savadogo.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée d'un djihad peul, mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée d'une révolte, d'un réveil des peuls qui ont été pendant longtemps stigmatisés et qui n'ont pas répondu. Et ces leaders-là ont tenté de réveiller la conscience des peuls qui sont stigmatisés dans tous ces pays qui rencontrent des difficultés. Et cela ne s'arrête pas là. Quand vous regardez le Mali, le Niger, le Burkina, qui sont présentement en proie à des menaces terroristes, on voit que c'est les mêmes indices qui sont en train de se produire au Bénin, au Togo et au Ghana. Et les peuls sont en train de subir les mêmes injustices, les mêmes frustrations.
Certains peuls parlent aujourd'hui de tentatives de nettoyage ethnique.
Pour le moment, il n'y a pas de preuves. Je pense que c'est exagéré. Mais je pense qu'ils tirent une sonnelle d'alarme. Et il va falloir vraiment faire attention parce qu'on est vraiment en train de marcher sur des œufs. Parce que je pense que déjà, nous avons déjà atteint la limite acceptable. Et si l'État ne réagit pas, on risque effectivement de basculer dans cette guerre intercommunautaire. C'est du pain béni pour les terroristes. Et c'est sur ça qu'ils jouent pour recruter au maximum et pour avoir les adeptes.
Comment ça va? Oui, ça va, merci. On est à Kilwé, dans la banlieue ouest de Ouagadougou. On y retrouve Daouda Diallo, du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés. Daouda veut nous faire rencontrer un jeune homme, un adolescent. Il est assis sous un arbre, silencieux, dans le champ des oiseaux.
Il était dans un village où il a assisté à l'extermination de ses parents. Et lui, il est un rescapé. Donc, ils sont trois qui ont été laissés parce qu'au regard de leur jeunesse et leur fragilité, ils n'ont pas jugé utile de les exécuter.
Tu as quel âge ?
18 ans.
Tu as 18 ans. Toi, tu étais là quand les FDS sont arrivés ?
Oui, j'étais là.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Nous étions dans le village, les FDS sont passés là-bas. Ils ont embarqué une vingtaine de personnes. Ils ont fait sortir 16 personnes, les tuer en cours de route. Moi et deux autres, nous étions libérés. Les autres n'ont pas encore été libérés.
Qu'est-ce qu'ils ont dit, les FDS ?
Ils parlaient de l'attaque de l'église. Ils m'ont posé des questions. Ils ont frappé d'autres jusqu'à les tuer. D'autres aussi étaient fusillés. Il y avait mon père et mon frère aussi. Mon frère, lui, était libéré. Mais mon père n'a pas été libéré.
Ils ont fait quoi à ton père ?
Ils les ont frappés. Ils les ont frappés. Il y avait une cinquantaine de personnes dans la chambre. Les jours durant, ils n'ont pas mangé. Et ils ne buvaient pas aussi.
Cette surpopulation dans la cellule où on les a enfermés, sûrement la chaleur aussi a tué un certain nombre de personnes.
Comment savoir ce qui s'est vraiment passé ? Des témoignages comme celui-ci sont rassemblés par des collectifs, des organisations de la société civile. On se rend au MBDHP, le Mouvement des droits de l'homme et du peuple, où travaille Ali Sanou. C'est une de ces organisations burkinabées qui interpelle l'État sur l'urgence de gérer tous les aspects de la réponse à la menace terroriste. Rendre une justice rapide, irréprochable, aider les FDS à adopter une réponse proportionnée et respectueuse des droits de l'homme.
Déjà, lorsque nous recevons ce genre de témoignages de personnes victimes d'exactions, nous allons sur le principe que pour éviter d'alimenter le cycle de radicalisation, il faut travailler à ce que ces personnes-là posent leurs revendications, leurs requêtes devant les institutions de la République et que ce soit dans le cadre de ces institutions-là que des solutions idoines soient trouvées. Donc, nous les aidons à formuler des plaintes ou à se constituer partie civile devant les autorités judiciaires de notre pays. La plupart du temps, c'est le tribunal militaire qui est compétent. Malheureusement, jusqu'ici, toutes les plaintes qui ont été formulées devant cette juridiction, à notre connaissance, n'ont pas connu d'avancée majeure. Même de simples autopsies qui ont été sollicitées n'ont jamais été réalisées. Ce sont des procédures judiciaires qui, dans le cas d'espèce, je ne dirais pas, sont lentes. Nous avons l'impression qu'elles sont inexistantes. On nous fait croire que les autorités judiciaires ont été saisies, que la justice suivra son cours, mais nous ne voyons aucun acte matériel concret qui soit posé sur le terrain.
Alors, ce sont des accusations très graves sur les forces de défense et de sécurité que de les accuser comme ça d'exécutions extrajudiciaires. Quelle est la réponse du ministère de la Défense et des autorités burkinabées ?
Lorsque nous avons publié le rapport, naturellement, les autorités se sont fendues d'un communiqué du porte-parole du gouvernement pour nier en bloc, en remettant en cause nos méthodes d'investigation dans un premier temps et dans un second temps en disant que les éléments des forces de défense et de sécurité sont formés au principe des droits humains et du droit international humanitaire et troisièmement en promettant que des enquêtes étaient en cours et que ces enquêtes-là livreraient justement les secrets de ce qui s'est passé. Nous sommes toujours en attente des résultats de ces enquêtes. Dans un état de droit, un état qui fonctionne, face à des accusations aussi graves, le minimum, c'est que la justice puisse jouer convenablement son rôle, mener des investigations de façon transparente et rendre publics les résultats de ces investigations. Tant qu'elle n'agit pas dans ce cadre, elle crée une suspicion. Et aujourd'hui, nous sentons que autant les organisations de droits humains que certains médias, que des citoyens, les gens reviennent de plus en plus sur les exécutions sommaires et extrajudiciaires. Nos autorités sont mal à l'aise parce qu'il est difficile de défendre l'indéfendable.
L'impunité, le sentiment d'injustice. Depuis le massacre de Yirgu, il nourrit le malaise des peuples. Au Burkina Faso comme au Mali, les cycles de représailles ont commencé à s'enclencher. L'homme avec qui nous avons rendez-vous vient du Nord, il est Peul. Il a pris le risque de traverser le pays en se cachant pour venir nous parler.
Moi je suis Peul, mais je ne suis pas djihadiste. Il ne faut pas profiter de ce phénomène de djihadisme pour des règlements de compte. Et certaines communautés ont profité de cette situation pour se venger des Peuls. Il y a beaucoup de nos frères Peul qui ont été dénoncés mais de manière injuste et qui ont été abattus ou qui ont été torturés.
Aujourd'hui, vous dites que la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme, elle sert de prétexte pour régler des problèmes entre communautés, des problèmes entre métiers, entre agriculteurs, entre éleveurs, que tout ça c'est un prétexte.
Exactement, exactement. Comme vous l'avez dit, le problème entre agriculteurs et éleveurs sont mal gérés. Parce que quand on voit le peul, on le voit venir là. C'est quelqu'un qu'il faut exploiter. Voilà. Le peul, c'est quelqu'un qui n'a pas voulu aller à l'école, qui aime vivre de façon isolée. Les éleveurs, là, même quand ils sont dans un village, là, les cases sont distantes de à peu près 100 mètres, 200 mètres. C'est pour ne pas avoir de problème. Mais malgré tout, les problèmes, effectivement, viennent. Puisque ceux qui sont là avec vous, ils ont la police, ils ont la gendarmerie, ils ont été à l'école. Donc, quelles que soient les petites difficultés que vous avez avec eux, une fois en justice, c'est le peul qui est mis en cause. Cette injustice-là a fait révolter certains jeunes peuls qui ont fui parce qu'ils ont été menacés. Leurs parents ont été tués, leurs frères ont été tués. Donc finalement, ils ont jugé nécessaire de rejoindre même les forces du mal. Je ne vais pas dire qu'ils sont allés se rallier. Ils sont allés là où ils pouvaient avoir des armes pour se venger effectivement de ceux qui les ont fait ce mal-là.
Ce n'est pas une motivation religieuse ?
Absolument pas. C'est juste un moyen de se défendre.
Les Peuls, ils vont voter ?
Les Peuls, c'est la deuxième ethnie, je crois, du Burkina. Mais ces histoires de vote, de démocratie, les Peuls, ça ne les intéresse pas. Courir, aller chercher des pièces d'état civil, aller chercher des cartes d'électeurs, pour eux, ça, c'est une perte de temps. Et d'abord, ça ne change rien à leur situation.
Mais ça, c'est un problème, parce que pour se sentir citoyen, il faut pouvoir être représenté.
Exactement. C'est pourquoi il faut mener des actions à l'endroit de ces communautés, pour les amener à un changement de comportement.
Et est-ce que dans les forces de sécurité, est-ce que dans l'armée, il y a des peuls ?
Là aussi, c'est un problème. Il n'y en a pas.
Pourquoi ?
Là aussi, ils ne se sont pas intéressés.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une discrimination nécessairement de la part des autorités, mais en tout cas, les peuls ne cherchent pas à s'enrôler.
Ils ne cherchent pas à s'enrôler. Ça ne les intéresse même pas. Ça aussi, c'est un problème, effectivement.
Oui, parce que s'ils ne sont pas présents dans l'armée et que si l'armée devient elle-même communautaire...
C'est ce qui provoque effectivement cette situation-là. Parce que si on était à force égale, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer. Parce qu'un militaire peul ne va pas accepter qu'on massacre ses frères peuls.
Est-ce que cette situation que vous connaissez, vous l'avez toujours connue quand vous étiez enfant, c'était déjà la même chose ou ça a brutalement changé?
Ce que nous vivons aujourd'hui, ça nous surprend parce que on ne reconnaît plus le Burkinabé comme ça. Le Burkinabé, c'est quelqu'un d'intègre. Le Burkinabé, c'est quelqu'un qui aime ce qui est juste. Mais ces dernières années-là, les choses ont changé quand même.
En moins de 5 ans, toute une tradition du vivre ensemble s'est désagrégée dans ce pays où ethnies et religions cohabitaient en harmonie depuis des décennies. La peur du terrorisme mine désormais une population dont les services publics sont en déliquescence. Pourtant, quelques responsables de la société civile croient encore qu'ils peuvent ressusciter l'héritage pacifiste du pays.
C'est beau comme endroit.
C'est sous les mangues derrière le Silmandé. On penserait en tout cas à un pays côtier. Faut pas vous tromper, on est dans un pays sahélien.
Boubacar Diallo est de ces hommes de bonne volonté. On retrouve Claude Guibal avec ce chef des Rougas, les éleveurs peuls du Burkina.
Moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'ai passé ici, c'était vraiment... Il y avait beaucoup d'eau ici et c'est maintenant que ça s'est asséché.
Le dérèglement climatique, ça touche ici, le Burkina Faso?
Ça touche beaucoup, beaucoup même, beaucoup.
Est-ce que ça joue un rôle, le dérèglement climatique, dans toute la situation à laquelle on assiste aujourd'hui, ces conflits entre agriculteurs, éleveurs aussi?
Ben oui, ça a un rôle, parce qu'aujourd'hui, les surfaces cultivables se réduisent comme peau de chagrin. Alors que ceux qui font l'agriculture, c'est là-bas également que vivent les éleveurs. Donc naturellement, c'est une compétition entre deux catégories de personnes qui naturellement ne peuvent pas vivre ensemble, parce que les animaux, eux, ils font des dégâts de champ.
Les dégâts de champ, c'est quand le bétail, par exemple, piétine les récoltes, quand il vient boire aux ressources, j'imagine.
Les dégâts champêtres, c'est quand les animaux même partent brouter les champs de mil, détruire les champs de mil.
Comment réagissent les cultivateurs?
Ben, naturellement, ils sont furieux et puis c'est ça qui amène parfois les conflits meurtriers dans le temps.
Les conflits entre éleveurs et agriculteurs, ils ont, vous l'avez dit, toujours existé. Comment ils viennent servir en fait de terreau pour la dégradation de la situation sécuritaire, pour tous ces affrontements, tous ces massacres que l'on voit aujourd'hui?
Bon, moi je pense que beaucoup, ce n'est pas des conflits agriculteurs et éleveurs. Et ça a servi de prétexte. Par exemple, le cas de Yirgu, ce n'était pas un conflit agricole et éleveur, c'est parce que le chef de Yirgu a été tué par des hommes armés non identifiés. Les terroristes sont intelligents. Ils savent qu'en allant tuer un chef Mossi, les autres allaient se retourner contre les peuples.
On a le sentiment d'une situation qui échappe à tout contrôle avec des populations qui sont instrumentalisées par les groupes terroristes, qui créent du chaos pour pouvoir s'implanter avec l'État qui ne réagit pas de la bonne façon. Et surtout, cette justice privée, vous parlez des Kogleogo, ces milices d'autodéfense qui aujourd'hui sont un État dans l'État, en fait.
Ben, justement, c'est la triste réalité que nous constatons. Il y a eu des rencontres entre ces Kogleogo, les Rougas, qui a été initiée par le ministère de la Sécurité, afin de parvenir quand même à la mise en place de la police de proximité. Mais malheureusement, sur le terrain, ces groupes d'autodéfense Kogleogo continuent à terroriser les populations civiles. C'est ça qui est malheureux.
Et l'État est absent?
Tout à fait. Là où il n'y a pas l'État, naturellement, c'est les Kogleogo qui règnent. À l'heure actuelle, c'est la désolation dans les campagnes. Surtout dans les zones où l'insécurité est arrivée, c'est la désolation. Parce que quand on vous chasse de votre village, vous devenez un déplacé dans votre propre pays, il n'y a rien de plus désolant que ça. Surtout quand vous voyez des enfants aujourd'hui qui ne peuvent même plus aller à l'école.
Vous-même, vous êtes engagé dans des activités de prévention de la radicalisation. Qu'est-ce que c'est qui peut pousser les gens dans ces régions-là à se radicaliser? C'est quoi le facteur à l'origine?
Bon, au début, les gens disaient peut-être que c'est la religion. Mais il y a eu des massacres dans les mosquées. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui dit qu'il fait une guerre de religion va aller dans une mosquée massacrer des musulmans qui sont en train de prier? Je dis non, c'est des bandits. Je pense que maintenant, le problème, ce n'est pas forcément l'aspect religieux. Je me dis qu'il y a aussi d'autres qui sont allés parce qu'il y a eu des exactions des FDS.
Les forces de sécurité du Burkina.
Exactement. Donc, forcément, quand il y a ces exactions, vous poussez ces jeunes à aller vers ces groupes. Et il y a aussi des délinquants. Il y a également certains orpailleurs qui ont besoin des zones de non...
De non-droit.
De non-droit pour pouvoir aussi s'adonner à leurs activités. Il y a des braconniers. Ils rentrent là-bas pour pouvoir faire le braconnage. C'est un multipote où il y a du tout à l'intérieur.
Voilà. Une minute. Vous venez. C'est comme ça. Voilà. Tu peux aller.
L'insécurité, on la sent partout. À ces sas de sécurité avec des hommes armés devant les restaurants. Et à ces précautions qu'il faut prendre en permanence quand on s'éloigne de la capitale Ouagadougou, déjà classée en zone orange. Alors ce matin, pour partir en direction des zones rurales, c'est une voiture accompagnée d'un garde armé qu'il a fallu prendre pour les Occidentaux que nous sommes.
C'est bon ?
Bonjour.
Bonjour.
Et donc il y a des gilets pare-balles là, à l'arrière, je vois dans le coffre.
Oui, à l'arrière. Là, du sud, je vais vous remettre ça.
Donc c'est un traceur GPS.
Il suffit juste d'appuyer sur le bouton SOS,
ouais.
Et voilà.
Et donc là, notre position est connue et on peut venir nous,
voilà.
Nous chercher s'il n'est pas trop tard.
Ça va aller.
Interception sur France Inter.
On est au milieu des vaches. Avec vous, Yacouba Barry, vous êtes le propriétaire de ce cheptel. Combien de bêtes vous avez ici ?
Il y a 70 bœufs, les 5 qui ne l'appartiennent pas. Les 65, c'est pour lui et ses enfants.
Comment ça se passe pour vous ? Est-ce que vous arrivez à, avec la situation, avec peut-être la difficulté de circulation aussi aujourd'hui dans le pays, est-ce que votre activité, elle a changé ?
Il y a des difficultés. Premièrement, c'est le problème, le manque d'eau. Avant, il y avait des retenues d'eau même en hivernage où le problème d'eau ne se posait pas en hivernage. Aujourd'hui, les agriculteurs ont occupé les berges de ces marigots. Ils en ont fait
des cultures
de rente. Ça fait que les animaux ne peuvent plus atteindre même les berges pour s'abreuver. Même le problème même de pistes pour accéder à ces berges sont devenus un peu compliqués. C'est la voie qu'on a suivie.
On est passé par un tout petit chemin, hein. c'est ça pour arriver ici.
Pour arriver ici, donc ils sont obligés d'emprunter ça aussi pour aller jusqu'au niveau des marigots.
Alors, donc pour faire boire tout son cheptel, il est obligé de prendre le tout petit chemin sur lequel ne passait tout à l'heure qu'une moto. Hein. C'était vraiment pas large. Et du coup, comment ça se passe avec les agriculteurs ? Parce que le troupeau, forcément, il déborde quand il passe. Ah.
Pour éviter en tout cas des problèmes agriculteurs, ils sont obligés de mettre deux bergers, un de chaque côté, pour canaliser les animaux jusqu'à la sortie.
Vous êtes très inquiet en général quand vous entendez ce qui se passe au Burkina Faso ?
Le champ à côté, c'est le champ d'un agriculteur. Mais ils sont obligés de travailler à ce que les animaux ne rentrent pas là-bas. Ils connaissent les difficultés que les autres ont ailleurs. Mais ici, ils travaillent en tout cas à ce qu'il y ait cette cohésion entre agriculteurs et éleveurs pour un bon vivre ensemble. Quand ils entendent ce qui se passe ailleurs, quand on amène à manger, ils n'arrivent même pas à manger parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Mais eux, ils restent toujours dans le schéma classique de prier bon Dieu pour que bon Dieu éteigne les problèmes qui sont intervenus dans d'autres régions du Burkina où ça endeuille des familles. Ils se réfèrent toujours à bon Dieu en se disant que bon Dieu va tout faire pour éteindre le mal qui est allumé ailleurs.
Les vaches anguleuses au pelage clair se pressent à l'abreuvoir. Plus loin, des femmes, elles pilent du mil. Boubacar Diallo, le chef des Rougas, a rassemblé les hommes.
J'étais en train de les sensibiliser. Il est de notre devoir, quand nous allons dans une zone, de les porter des messages forts. C'est des messages d'unité, des messages d'entente avec la population locale avec laquelle ils sont. Et deuxièmement, les dire que ils doivent tout faire pour envoyer les enfants à l'école. Parce que si les enfants partent à l'école, ils comprendront mieux, ils vont s'éloigner de certaines choses. Les sensibiliser pour qu'ils s'éloignent de l'extrémisme violent. Si tu vois ton enfant qui fait quelque chose qui n'est pas bon, aie le courage de lui dire ce que tu fais, ce n'est pas bon, éloigne-toi de ça. S'il refuse, aie le courage de dénoncer ton propre enfant aux forces de défense, ils vont bien le corriger. C'est ce que j'étais en train de leur dire. Et surtout les encourager à être regardants vis-à-vis de leurs enfants pour éviter que ces enfants n'aillent vers les groupes qu'aujourd'hui le Burkina combat. Alors.
Nous laissons les éleveurs et leurs cheptels. S'ils ont décidé, eux, les nomades, de se sédentariser, c'est qu'il y a ici, disent-ils à Saponé, encore une sécurité qui disparaît ailleurs. Et cette sécurité, reconnaissent-ils encore, elle tient notamment à l'action d'un homme, un Mossi, un chef coutumier, le Nabasigri de Saponé.
Vous êtes au palais de son Excellence, le Nabasigri de Saponé. Nous avons été intronisés en 2016 par Sa Majesté le Moro Nababaoro. Nous sommes innovateurs des équipements de transformation en agroalimentaire et agropastoral au Burkina Faso. Le canton est constitué de 40 villages, dont une population avoisinant les 600 000 habitants, qui est constituée de toutes les religions du Burkina, notamment la chefferie coutumière, les catholiques, les chrétiens et les musulmans. En ce qui concerne les ethnies, nous avons toutes les ethnies. Nous avons les Samou, nous avons les Peul, nous avons des Bissa, des Gourounsi. Et depuis la nuit des temps, ce brassage des identités et des ethnies, des religions, est en parfaite symbiose. Et depuis notre intronisation, c'est mon combat, chaque jour, chaque matin. Parce que notre grand-père, nos aïeux, nous ont légué un savoir. Qui est, mes enfants, soyez tolérants, cherchez la paix.
Alors, vous, Excellence, vous êtes Mossi. Cette cohésion sociale dont vous parlez, c'est vraiment très emblématique de l'image du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, le pays du vivre ensemble. Depuis 5 ans maintenant, cette cohésion sociale est attaquée par des groupes armés. Ici, à Saponé, vous êtes épargné encore. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète?
Cette inquiétude va au-delà de Saponé. Ce qui va à l'ensemble de tout le Burkina Faso. Quelque chose est venu entacher cette cohésion-là. Mais nous espérons qu'avec les mains et dos de nos ancêtres, nous allons pallier à ce problème. Parce que nos ancêtres ont su combattre. En 1947, lorsque le Burkina Faso a été divisé, c'est la chefferie coutumière qui a remis le pays en place. Toutes ces majestés, ils ont dit non à ce système de division. J'ai dit s'il n'y avait pas l'analphabétisme politique et l'ignorance politique, il ne devrait pas avoir ce fléau-là au Burkina Faso. Chaque jour, je discute avec la population, les éleveurs, je cause avec eux comment on doit changer ce mode d'élevage-là. La divagation des animaux, c'est un fléau qui nous gangrène, qui provoque des conflits inutiles. Entre un agriculteur et un éleveur, il faut éliminer ça. C'est pourquoi j'ai mis au point toutes ces technologies pour pallier à tous ces problèmes-là. Un agriculteur qui produit ses résidus de récolte, tu les collectes, tu donnes à l'éleveur, Il va transformer en aliment de bétail, il va donner aux animaux à consommer. Pour ne plus laisser les animaux en divagation, les animaux en stabilisation vont vous produire ce que nous appelons la fumure organique pour faire l'agriculture biologique. Et vice-versa, l'éleveur qui va donner la fumure organique à l'agriculteur, chacun aura sa part.
Alors voilà, avec cette machine que vous avez créée qui permet de broyer les résidus agricoles pour en faire des blocs pour les animaux, vous permettez à l'échelle d'une communauté un écosystème qui permet aux communautés différentes d'être complémentaires.
Bien sûr, vous avez trouvé le mot. C'est mon idée. Que cette cohésion sociale tant recherchée au Burkina soit notre quotidien, notre café de matin, notre repas de midi et notre repas de soir. À tout instant, nous devrons penser paix, tolérance et cohésion sociale.
Burkina, extension du domaine du djihad, c'était un reportage de Claude Guibal avec une prise de son de Fabien Gosset. Réalisation Violaine Ballet, assistée de Martine Messonnier, mixage Julien Doumac. La semaine prochaine, MeToo, la révolution au ralenti, un reportage de Géraldine Allot. 2 ans après l'affaire Weinstein, qu'est-ce qui a changé entre les hommes et les femmes ?